Haïti Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette autre édition de votre magazine. Et c'est évidemment un réel plaisir d'être à nouveau avec vous, Francis Laloupo. Bonjour.
Bonjour Liliane, vous revenez du bout du monde, hein, de longues vacances. Et pas que vous étiez aussi en mission de travail aussi d'ailleurs.
Comme d'habitude, c'est vous qui m'avez envoyé en mission et je peux rassurer les auditeurs que tout s'est bien passé.
Je confirme.
Voilà, deux dialogues au Bénin organisés par deux camps politiques opposés. Et quelles en seront les conclusions? Jeudi, pouvoir et opposition ont ouvert des discussions dans la capitale économique Cotonou, initiées respectivement par le président Patrice Talon et l'ancien président Nicéphore Soglo. Ces résolutions pourraient-elles aider à détendre l'atmosphère crispée au lendemain des législatives tenues sans aucun parti d'opposition? Analyse. Maurice Kamto et compagnie, désormais libres, vont-ils renoncer ou au contraire poursuivre la contestation de la victoire de Paul Biya à la présidentielle de 2018, laquelle les avait conduits en prison? Dans un communiqué de son parti, le MRC, publié vendredi, le chef de l'opposition et rival de Paul Biya à la présidentielle d'octobre 2018, qui a passé 8 mois en prison, affirme que son parti est dans l'obligation de maintenir et d'accentuer la résistance nationale. Il demande aux Camerounais, je cite, de rester mobilisés. La liquidation des biens du président gambien déchu Yahya Jammeh risque-t-elle de compromettre ou plutôt d'accélérer la réconciliation nationale? Un an après le processus vérité, réconciliation et réparation, le gouvernement de Banjul verse 600 millions de francs CFA au fonds d'indemnisation des victimes de l'ère Jammeh après la vente des biens saisis appartenant à l'ex-président qui vit en exil en Guinée équatoriale. Et voici notre plateau présenté par vous, Francis Laloupo.
Oui, Liliane Niacha, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Cotonou, donc l'âme Abalo, porte-parole de l'Union sociale libérale, l'USL, parti d'opposition au Bénin. Donc l'âme Abalo, bonsoir, bonjour.
Bonsoir, bonjour monsieur le journaliste, bonjour et bonsoir à tous vos auditeurs.
Merci d'être avec nous, donc l'âme Abalo, diplômé de l'École nationale d'administration du Bénin, hein, vous êtes détenteur d'une maîtrise en droit. Vous avez occupé 5 ans durant les fonctions de directeur général de la station de Radio Soleil FM au Bénin, membre fondateur, responsable à la communication et porte-parole de l'Union sociale libérale, l'USL, un parti présidé par l'entrepreneur Sébastien Adjavon. Vous avez été le porte-parole de ce dernier lors de la présidentielle de 2016 au Bénin. Et Sébastien Adjavon, arrivé en 3e position à l'issue de ce scrutin, est aujourd'hui l'un des grands opposants au régime en place. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Un confrère invité dans cette édition, il sera avec nous tout à l'heure au téléphone depuis Yaoundé, il sera avec nous au téléphone en tout cas depuis Yaoundé. C'est Xavier Messé qu'on connaît bien dans cette émission, directeur de HTV, chaîne de télévision privée camerounaise. Voilà pour le plateau, Liliane, on commence avec vous. Premier sujet, le Bénin donc.
Oui Francis, mais avant le Bénin, on ne saurait passer de silence actualité qui est intervenue vendredi au moment où nous enregistrons l'émission. Eh bien, c'est la désignation du Premier ministre éthiopien comme prix Nobel de la paix 2019, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a donc été désigné prix Nobel de la paix 2019. Monsieur le porte-parole de Monsieur Adjavon, Monsieur Abalo, est-ce que vous pensez que cette récompense est méritée?
Bien sûr, toute récompense normalement devrait être méritée, surtout que dans le cas actuel, le Premier ministre éthiopien a joué un rôle important dans la résolution du conflit frontalier avec l'Érythrée. Il faut remarquer que depuis sa prise de fonction, il a fait l'essentiel pour que les 20 ans d'état de guerre connus entre son pays et l'Érythrée puissent passer dans le passé. Donc pour ça, je crois bien qu'il mérite le prix Nobel de la paix. Nous ne pouvons que lui présenter toutes nos félicitations.
Bien. Voilà, il y a beaucoup de... Pardon Francis, allez-y.
Non, j'ai juste fait de commenter le fait que ça fait quand même 2 prix Nobel successifs pratiquement pour l'Afrique. Hein. Denis Mukwege l'année dernière et cette fois-ci donc pour le Premier ministre éthiopien. Est-ce que c'est révélateur aussi du fait que bon, c'est quand même un continent où il est urgent de faire baisser les tensions et les conflits?
Absolument. Il faut faire taire tout ce qu'il y a comme tensions et conflits dans le monde, mais principalement en Afrique. et les foyers de tension sont nombreux sur ce continent. Vous comprenez donc pourquoi on peut se réjouir que des initiatives comme le prix Nobel de la paix viennent rappeler, que ces initiatives donc viennent rappeler que nous devons tous être des artisans de paix. C'est important. Et lorsqu'on a ce genre de distinction, on a envie de dire à tous les autres dirigeants africains de faire l'essentiel pour que leur pays ne sombre pas dans la guerre. Suivez mon regard, chaque fois qu'on essaye, n'est-ce pas, de compromettre la paix, eh bien, on compromet le monde entier. L'Afrique doit désormais pouvoir comprendre la leçon et l'Afrique doit pouvoir désormais se battre pour que, eh bien, les initiatives de paix se multiplient partout où il y a des foyers de tension.
Bonne transition peut-être pour parler du Bénin.
Oui, absolument, Francis. Les deux dialogues, les deux dialogues tenus cette semaine, on se demande, sont-ils une opportunité de paix ou de réconciliation de la classe politique divisée, on le sait, depuis la tenue fin avril des législatives dont l'opposition en a été privée. Difficile pari, mais le dialogue du pouvoir et le contre-dialogue de l'opposition visent, d'après chacun des deux camps, à trouver des solutions aux problèmes consécutifs à la crise post-électorale. Précision de la correspondante de BBC Afrique à Cotonou, Rachida Oussou.
C'est le toilettage de la loi sur la charte des partis politiques qui est au centre des échanges en ce moment. Le dialogue s'articule autour de 5 points et devrait aboutir à un climat propice à la cohésion nationale, mise à mal par les lois électorales. C'est ce qu'a rappelé Patrice Talon avant l'ouverture des débats.
Aussi indiqué qu'il puisse paraître, notre charte des partis politiques et notre code électoral nous ont causé du tort. Aussi apparaît-il désormais pertinent que les acteurs politiques se retrouvent pour apprécier leur application, réfléchir et échanger sur les adaptations possibles à y apporter, tout en préservant l'indispensable assainissement des pratiques politiques.
La grosse question à l'entame de cette séance, c'était la présence ou non du parti de Boni Yayi. Cette formation politique étant en proie à une scission, une aile prend part aux assises. L'autre camp du parti de Boni Yayi était aux côtés de 3 autres formations politiques de l'opposition également en réunion aujourd'hui. Le porte-parole de circonstances, l'ancien président Nicéphore Soglo.
Quel dialogue politique peut-on organiser pendant que nos compatriotes sont contraints à l'exil? Quelle est cette plaisanterie qui a lieu actuellement? Partout sur le continent souffle un vent de liberté. Les derniers événements intervenus au Sénégal et au Cameroun envoient un signal fort à Patrice Talon et lui interdisent de faire la sourde oreille.
Rachida Oussou, BBC Afrique, Cotonou.
Monsieur Donklam Abalo, votre parti, l'USL, Union sociale libérale, n'a pas participé à ce dialogue, de même que l'autre faction du FCBO de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons que l'USL n'a pas participé à ce dialogue convoqué par le président Talon?
Mais notre parti n'a pas été invité au dialogue convoqué par le président Patrice Talon. Donc vous comprenez à partir de ce moment que si nous n'avons pas été invités, il n'est pas possible pour nous d'être présents à ce dialogue. C'est ce que je peux vous répondre maintenant pourquoi on n'a pas été invité. Le gouvernement n'a pas simplement voulu nous inviter parce que le gouvernement ne veut pas reconnaître l'existence juridique de notre parti politique. Il y a des exigences qui ont été faites et pour l'essentiel, on retient que le gouvernement souhaiterait que nous puissions enlever M. Sébastien Germain-Jabon de la présidence d'honneur de l'USL sous prétexte qu'il aurait été condamné. C'était la condition fondamentale. Mais puisque nous ne pouvons pas reconnaître la condamnation de M. Sébastien Germain-Jabon, surtout que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté cette condamnation, nous ne pouvons donc pas l'enlever de la présidence d'honneur de l'USL. À partir de cet instant, le gouvernement n'a pas voulu nous inviter. Et donc nous avons été exclus de ce dialogue, comme la plupart des partis de l'opposition, je dirais même tous les partis de l'opposition. Ceux qui sont allés au nom des forces corrompues Bénin et émergents ont été même contestés par d'autres membres de ce même parti politique. Vous comprenez donc que ce dialogue reste et demeure un dialogue d'exclusion. Et donc c'est un monologue entre le président et les partis qui lui sont favorables.
En maintenant quand même Sébastien Adjavant la tête du parti président d'honneur, alors même qu'il est condamné et que pour le camp présidentiel, étant condamné, il ne pouvait pas le parti ne pouvait pas être invité à ce dialogue. Est-ce que vous n'avez pas contribué à renforcer la confrontation?
Non, le monsieur Ajavon n'est pas condamné. C'est justement le débat juridique qui se mène. Vous savez, au Bénin, actuellement, on a institué une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une cour qui a ressuscité un dossier de 18 kg de cocaïne, un dossier déjà vidé par le tribunal de première instance de Cotonou et qui a conduit justement à la libération de M. Sébastien Germain Ajavon. Donc la condamnation...
Allô? Ah, monsieur Abalo, est-ce que vous pouvez parler plus près du téléphone? Vous reprenez vos propos, s'il vous plaît.
Oui, je disais tantôt, je ne sais pas si vous me recevez maintenant.
Oui, mais restez constamment près du téléphone. Allez-y.
D'accord. Alors, j'expliquais qu'au Bénin, il y a une cour qui a été instituée par le régime à travers ses députés favorables à l'Assemblée nationale, qui est une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une cour qui est arrivée ressortir un dossier déjà vidé par le tribunal de première instance de Cotonou et qui a dit clairement que M. Ajavon n'est pas coupable et a été libéré totalement. Et donc, cette cour qui a été créée revient avec un dossier déjà vidé. Alors, nous n'étions pas d'accord, nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui nous a donné raison. La cour a donné 15 jours au Bénin pour sursoir à exécution de cette décision. Et après, elle est revenue donner 6 mois au Bénin pour annuler la décision. Or, le Bénin est parti au traité qui reconnaît les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À partir de cet instant, pour nous, la condamnation tombe. Si nous acceptons d'enlever M. Sébastien Germain Ajavon de la présidence d'honneur de l'USN, ça veut dire que nous reconnaissons qu'il est coupable, nous reconnaissons qu'il a été condamné et que toute la bataille judiciaire que nous menons jusque-là n'avait pas eu de sens. Donc nous, nous sommes cohérents et nous disons au gouvernement béninois que M. Ajavon n'a pas été condamné. Il n'y a donc aucune raison de l'enlever de la présidence d'honneur de l'USN. Et donc pendant qu'on est dans cette bataille judiciaire, on ne peut pas, pour des raisons administratives, nous exclure de dialogue alors qu'on dit dans le même temps qu'on veut la paix.
Donc là, Abalo, alors vous le disiez, 9 formations reconnues par le ministère de l'Intérieur ont été les seules invitées à ce dialogue en cours actuellement. Alors, quelle est aujourd'hui, selon vous, la position de ces partis, ceux qui sont présents à ce dialogue, hein, quelle est leur place sur l'échiquier politique béninois aujourd'hui? Est-ce que ce dialogue est un dialogue pluraliste? Est-ce qu'il y a à la fois des partis de la mouvance présidentielle et des partis qui se réclameraient de l'opposition aujourd'hui présents à ce dialogue?
Bien, vous avez annoncé 9 partis, 8 sont présents réellement. Parce que
8 sont présents, effectivement.
Le DUD
vous avez raison.
A répondu à l'appel du gouvernement.
Absolument.
Et donc, vous constaterez même, lorsqu'on fait le point, que nous avons un seul parti de l'opposition, nous le disons comme ça, qui n'est même pas un parti unanime de l'opposition. Donc, parce que le FCBE pour un Bénin émergent ont décidé, le bureau politique de ce parti a décidé que le parti ne participe pas au dialogue. Et maintenant, il y a des résistants dans le parti qui sont allés quelques-uns. Mmh. Voyez-vous, quand on fait le point, vous vous rendez compte qu'on a plus de 7 partis de la mouvance et un seul de l'opposition. C'est un dialogue minoritaire pour l'opposition. À partir de cet instant, les décisions qui vont sortir de là ne sauraient engager la mouvance et l'opposition. Et lorsqu'on écoute le discours d'ouverture du chef de l'État, on se rend compte clairement que le président a donné la feuille de route. Il a dit ce qu'il attendait. Il a désigné lui-même le facilitateur, il a désigné lui-même le premier rapporteur. Le deuxième rapporteur est quelqu'un de sa famille politique et même de sa famille biologique. Mmh. À partir de cet instant, on ne peut rien attendre d'un pareil dialogue.
Est-ce que vous voulez dire que ce dialogue est-ce que vous voulez dire, donc, là, Mabalo, que ce dialogue est destiné à consacrer définitivement les réformes du gouvernement, ces réformes qui ont été contestées, justement, et qui ont été la source de la crise en avril dernier?
Alors, dans l'extrait que vous avez diffusé tout à l'heure, vous avez vu le président de la République reconnaître lui-même que le code électoral et la charte des partis politiques nous ont créé beaucoup de tort. Ça veut dire que ces lois en question sont mauvaises. Mmh. Et normalement, ceux qui ont l'initiative de la loi, selon la constitution du Bénin, c'est l'Assemblée nationale et le gouvernement. Et donc, quel est le sens de ce dialogue? Pourquoi est-ce qu'on demande aux gens d'aller se conformer à des lois reconnues mauvaises par le président de la République?
Mais est-ce que vous n'êtes pas quand même optimiste quant à l'issue du dialogue? Et peut-être, est-ce que le dialogue n'est-il pas l'occasion de discuter de tout cela? Et peut-être ne va-t-il pas se faire justement par l'annulation de ces lois que le président, puisque le président lui-même admet que ces lois ont posé de problèmes.
Mais nous ne reconnaissons pas ce dialogue, c'est la première chose. Et rien ne nous prouve d'ailleurs que ce qui va être décidé au niveau de ce dialogue sera respecté par l'Assemblée nationale.
Mais si à la fin de ce dialogue, les deux éléments dont parlait le président sont annulés?
Non, madame la journaliste, s'il vous plaît, ce n'est pas au cours d'un dialogue qu'on annule des lois. Ce dialogue ne pourra permettre d'annuler des lois. Ce dialogue, eh bien, c'est que des propositions, c'est que des recommandations. Et le président même a pris soin dans son discours de dire que les recommandations, selon leur pertinence, retenez bien, selon leur pertinence, les recommandations seront faites au gouvernement qui avisera. Ça veut dire que ce n'est pas automatique. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a décidé ça au cours du dialogue que l'Assemblée nationale va respecter ce qui a été décidé. Pour nous, c'est un marché de dupes. Et on ne peut même pas faire ce type de dialogue sans tous les partis qui sont concernés par le conflit. Le président même est concerné par le conflit. Les partis politiques de la mouvance sont concernés par le conflit. Les partis politiques de l'opposition sont concernés par le conflit. Et le président décide seul, n'est-ce pas, de faire un dialogue, décide seul de l'ordre du jour, décide seul du facilitateur et décide seul également du rapporteur, du premier rapporteur. Les dés sont pipés dès le départ. Et à partir de cette
époque, vous n'en attendez rien du tout. Et pour vous, l'absence d'une partie de l'opposition au dialogue va à coup sûr logiquement conduire à l'échec de celui-ci.
Mais c'est déjà un échec. C'est déjà un échec. Alors, il y a on dit souvent que la paix ne découle pas des actions d'un seul acteur. Si le président veut la paix, il met tous les acteurs en position et on discute. Vous pensez qu'on peut avoir une issue lorsque nous avons des acteurs politiques qui sont en exil, lorsque nous avons des gens qui sont en prison pour leurs opinions politiques, lorsque nous avons des gens qui veulent participer, qui ont manifesté leur désir de participer au dialogue, mais qu'on les exclut, vous pensez qu'on peut être engagé par ce genre de discussion? Mais pas du tout. Donc, à partir du moment où tout a été possible dès le début, eh bien, on n'attend rien qui puisse engager la classe politique au Bénin.
Oui, alors une question, donc là, Abalo, alors on le disait, hein, d'autres partis, dont le vôtre, clairement inscrit dans l'opposition, qui n'ont pas été invités à ce dialogue, ont donc organisé un contre-dialogue dénommé les Assises de la Résistance. Quel en est l'objectif précisément? Est-ce qu'il s'agit d'envoyer un message à distance au pouvoir?
Le message est très clair et le pouvoir connaît le message. Et ce message a été rappelé, n'est-ce pas, au pouvoir et à la communauté internationale. La résistance demande justement qu'on respecte certains préalables. La résistance demande que tous ceux qui sont concernés par le conflit politique au Bénin puissent s'asseoir et discuter. La résistance pense qu'aujourd'hui, le Bénin n'a pas qu'un problème politique. Le Bénin est en crise fondamentalement. Et cette crise, elle est aussi bien politique, économique que sociale. Donc il faut s'asseoir pour justement repenser le Bénin. Évidemment, le gouvernement a peur que ces assises ne se transforment en conférence nationale bis, mais cette crainte n'est pas réelle. Cette crainte n'est pas réelle parce que nous pensons que pour relancer la démocratie au Bénin, pour préserver les acquis démocratiques et l'état de droit, il faut forcément s'asseoir et discuter. Mais bon, le gouvernement ne le voit pas de cette oreille. Nous tirons simplement la conclusion que le gouvernement également veut faire preuve de bonne foi, c'est-à-dire veut démontrer à l'opinion publique internationale qu'il discute avec les uns les autres. C'est pour ça qu'il a organisé cette...
Vous voulez dire que c'est un message qui est envoyé à la communauté internationale davantage qu'à usage interne?
Non, le message, de toutes les façons, le monde entier sait ce qui se passe au Bénin. De toutes les façons, la communauté internationale sait ce qui se passe au Bénin. Et ce qui se passe là, au Palais des Congrès, n'est pas représentatif de la classe politique du Bénin.
Merci. On va marquer une pause obligatoire. On vous revient. Et Francis, Xavier Messé est avec nous.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Cotonou, donc Lam Abalo, porte-parole de l'USL, c'est l'Union sociale libérale, parti d'opposition au Bénin. Et je salue notre confrère Xavier Messé qui nous a rejoint. Xavier Messé, bonjour.
Comment?
Bonjour.
Oui.
Bonjour. Bonjour Xavier Messé.
Bonjour.
Voilà, j'allais...
Oui, bonjour Francis, bonjour Liliane.
Voilà, j'allais bonjour, simplement Zachary. Vous présenter aux auditeurs. Vous nous avez rejoint, vous êtes le directeur de HTV, chaîne de télévision privée camerounaise. Nous poursuivons donc ce débat sur la situation, sur l'actualité béninoise, avec Donklam Abalo. On écoutera Xavier Messé ensuite. Je voulais votre commentaire, Donklam Abalo, sur ces phrases prononcées par le président Patrice Talon à l'ouverture de ce dialogue. Une phrase avec des connotations très médicales. Il a dit ceci: notre rencontre de ce jour, loin d'être le signe d'un quelconque stress de notre démocratie, s'apparente à une exigence de check-up quand survient une quinte de toux d'une résonance inhabituelle. Oui, c'est très médical. Alors, je ne résiste pas à l'idée de vous poser cette question. Quel est aujourd'hui, donc, Donklam Abalo, le pronostic vital de la démocratie béninoise?
Vous savez, s'il faut attendre une quinte de tout avant d'aller faire un check-up médical, ça veut dire que le président se trompe forcément de diagnostic. Ce qui se passe au Bénin dépasse une quinte de tout. Ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, c'est que le pays est totalement enrhumé et rien ne fonctionne. Les institutions ne fonctionnent pas. Pas du tout au Bénin. Et ce qui est important, ce que nous demandons surtout au niveau de l'opposition, c'est qu'on restaure l'état de droit. Nous n'avons plus le sentiment que les piliers fondamentaux de la démocratie sont sauvegardés. Nous sommes dans un pays, malheureusement, où la justice n'est pas libre. Dans un pays, malheureusement, où la presse n'est pas libre. Dans un pays, malheureusement, où on n'a pas de séparation des pouvoirs. Ce n'est pas l'esprit de la Conférence nationale de 1990. Donc, il y a des acquis démocratiques que nous appelons à sauvegarder. C'est plus qu'une quinte de tout. D'accord, monsieur le journaliste? Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons tirer la conclusion que le pronostic vital du Bénin est un pronostic vital alarmant. Nous avons quitté la démocratie pour nous retrouver dans un état dictatorial. C'est la dictature et c'est cela que nous combattons chaque jour au Bénin.
Merci.
Un commentaire Xavier, avec Xavier Messé, voilà. Sur cette actualité, Xavier. Alors, cette démocratie donc qui est aujourd'hui en panne au Bénin, ce dialogue initié par le pouvoir et un contre-dialogue initié par les partis de l'opposition, certains vieux partis d'opposition non invités à ce dialogue.
Xavier?
Oui.
Vous êtes avec nous.
Allô?
Oui, on vous a...
On voulait écouter votre analyse, oui. Xavier, sur ce dialogue qui est organisé par le pouvoir au Bénin et le contre-dialogue, le contre-discussion initié aussi par l'opposition.
Oui, il y a quelque chose de paradoxal dans ce que nous vivons depuis le mois d'avril dernier au Bénin. Le Bénin a toujours été pour nous autres Africains qui ne sommes pas de ce pays-là, mais qui suivons attentivement ce qui se passe au Bénin, il y a quelque chose de paradoxal. Parce que le Bénin, depuis 1990, et bien avant 1990, ce pays était apparu comme le laboratoire de la démocratie en Afrique. On prend toujours le Bénin pour référence parce que, alors que les conférences nationales souveraines avaient complètement échoué dans d'autres pays, le Bénin qui a ouvert ce bal en 1990, c'était un succès. Et le Bénin a connu des moments pénibles, par exemple la dictature, et ce pays en est sorti vraiment de manière tout à fait courageuse.
Et pour revenir au dialogue, Xavier, qu'est-ce que vous en attendez? Le dialogue tel qu'il est organisé, sans 8 partis politiques de l'opposition majeure, qu'est-ce que vous attendez d'un tel échange, de telle discussion entre la classe politique?
Le véritable problème, c'est que ce parti de l'opposition, qui ne sont pas partis,
qui n'ont pas été invités
à ce dialogue, ont donné comme raison, ils n'ont pas été associés à la préparation du contenu de ce dialogue. Moi, je pense que d'un dialogue normal, un dialogue exclusif, il faut d'abord impliquer au départ le parti politique pour faire un examen des problèmes qui se posent.
Et d'après vous, quelles peuvent être les conséquences de cette absence de l'opposition? Est-ce que, pour vous, ce dialogue, finalement, ne va pas permettre de solder le contentieux post-électoral qui a contribué à crisper l'atmosphère politique?
Mais vous savez, lorsque les gens se rencontrent, ils finissent toujours par trouver des solutions à leurs problèmes. Les absents ont toujours tort, Il fallait tout de même que les teneurs des partis d'opposition, quels que soient les cas, qu'ils s'assoient à la table de discussion afin de trouver une solution à cette crise.
Excusez-moi, Xavier, notre invité vient d'expliquer clairement, ils n'ont pas été invités. Ces partis n'ont pas été invités. Ce n'est pas, ils n'ont pas décliné l'invitation, mais ils n'ont pas été invités du tout.
Mais je n'ai aucun élément pour vérifier. Je n'ai aucun élément pour vérifier parce qu'ils ont accusé le président d'avoir choisi lui-même les participants à ce dialogue. Et si cela est réel, ça veut dire que c'est parti pour ne pas avoir un résultat escompté. Parce qu'en fait, si on compte sur un dialogue, il n'y a pas de raison qu'on écarte certains partis qui représentent pourtant sur la scène politique une importance capitale. Le fait que le président, si cela est réel, je confirme, si cela est réel que le président a choisi des partis qui devaient assister au dialogue, c'est et dès que cela est écarté pour des raisons qui lui sont propres, je pense qu'il n'est pas parti du bon pied.
C'est le
Merci.
Cas.
Monsieur Abalo.
Dame Abalo, alors, il faut rappeler que les autorités béninoises ont clairement indiqué que la société civile et le clergé n'avaient pas leur place à ce dialogue. Ça, c'était pour l'information. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que vous avez le sentiment que ce dialogue est réellement destiné à résoudre la crise interne ou simplement à envoyer quelques signaux à certains partenaires étrangers du pouvoir ou du Bénin?
Non, je crois que c'est juste pour envoyer quelques signaux. Ça ne règle aucune crise. Ensuite, vous avez compris que l'ordre du jour, c'est-à-dire que le cahier de charges a été clairement donné au président de la République et par le président de la République. Le président de la République a dit que cette discussion est pour corriger la loi électorale, corriger le code électoral et la charte des partis politiques. Donc c'est tout. Le président n'a pas envie d'aller au-delà de ça. Bon, si c'est ça le sujet, pourquoi alors faire un dialogue alors que l'initiative de la loi revient au président de la République ou à l'Assemblée nationale? Voyez-vous? Donc c'est juste une manœuvre dilatoire pour donner l'impression qu'on est ouvert au dialogue, donner l'impression qu'on veut régler une crise. Mais la crise est profonde. Il y a eu des gens qui ont été tués, mesdames et messieurs. Il y a eu des gens qui ont été tués parce qu'ils manifestaient justement.
Merci. À ce sujet, l'opposition organise une messe samedi en mémoire de ces victimes de la crise post-électorale. Mais je voudrais encore revenir très rapidement avec vous, Monsieur Abalo, sur ce que Francis disait, l'absence du clergé et de la société civile. En tout cas, le porte-parole du gouvernement a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une conférence nationale, mais d'une rencontre politique avec les partis qui ont une existence légale. Mais je voudrais vous demandez, vous qui avez également organisé, vous de l'opposition qui avez organisé des contre-discussions, qu'est-ce qu'il faut attendre des conclusions qui seront issues de votre contre-dialogue? Quel usage seront faits de ces conclusions?
Ce que nous avons dit ou ce que nous disons dans le contre-dialogue est ce que nous disions depuis toujours. Et contrairement au dialogue ou à la séance de travail organisée par le président de la République, nous, il y a eu une large ouverture. Toutes les couches sociales ont été invitées, en tout cas tous ceux qui parlent le même langage que nous ont été invités.
Oui, mais toutes ces personnes sont là, vous allez discuter, avoir vos conclusions, mais quel usage sera fait de conclusions de votre dialogue? Comment allez-vous les mettre en œuvre, ces conclusions?
Ça va être de toutes les façons. En fait, nous sommes dans une guerre de communication, il faut le dire aussi comme ça, parce que nous allons mettre sur une plateforme les conclusions justement de cette discussion et vulgariser cela. Ça permet au moins de connaître la position de l'opposition. Même si la position de l'opposition n'a pas été exprimée au niveau du dialogue parce que l'opposition ayant été exclue de cette rencontre, mais nous, ça nous permet de dire ce que nous pensons, ça nous permet
d'occuper le terrain,
nos revendications, ça nous permet de rappeler nos attentes. Et pour nous, ça n'a pas de prix, c'est très important.
Merci.
Pour la compréhension internationale de ce qui se passe au Bénin.
Merci. Francis, on passe au prochain sujet, si vous permettez.
Absolument.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin invité au téléphone depuis Cotonou, donc Lame Abalo, porte-parole de l'USL, l'Union sociale libérale, parti d'opposition au Bénin, et notre confrère invité depuis Yaoundé au téléphone, Xavier Messé, directeur de HTV, chaîne de télévision privée camerounaise. On voit au Cameroun d'ailleurs, le Cameroun entre dialogue national et décrispation de la vie politique. Il faut dire que les Camerounais ont sans doute vécu des journées particulières au cours de la semaine dernière, une semaine marquée par le grand dialogue national destiné notamment à produire des solutions à la crise en cours dans les provinces anglophones. Semaine marquée aussi par la décision d'abandon de poursuites judiciaires en faveur de 333 militants séparatistes, suivis de la libération de l'opposant Maurice Kamto, président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et ses partisans, tous incarcérés depuis 9 mois pour avoir contesté dans la rue le résultat de la présidentielle d'octobre 2018. Autant d'actes dits de décrispation politique, aussitôt salués par le secrétaire général des Nations Unies. Quel sera donc l'impact de cette semaine, pas comme les autres, sur le climat politique dans le pays, et à quoi ressembleront les jours d'après le grand dialogue national au Cameroun? Je me tourne vers vous, Xavier Messé. La libération de Maurice Kamto, diversement commentée dans le pays, il y a ceux qui s'en réjouissent, et ceux qui déplorent le fait qu'on ait infligé 9 mois d'incarcération à ces personnes pour arriver à ce résultat. 9 mois d'incarcération pour rien, en somme. Quel peut être l'impact à court terme de ce geste politique, Xavier Messé?
Oui, comme vous dites, la libération de Maurice Kamto est différemment commentée au Cameroun. Il y a des gens qui disent qu'on lui a pris 9 mois pour rien. Il y en a qui sont satisfaits. Et je pense que dans l'ensemble, les réactions que nous percevons passer par là sont globalement positives. Elles sont positives parce que nous pouvons remarquer que dans la rue, les joutes qu'il y avait dans les bars, dans les lieux publics, dans les ministères, dans les taxis, sont quelque peu atténuées. Et par ailleurs, on a constaté que, d'une manière générale, l'international, que ce soit le secrétaire général des Nations Unies, que ce soit les autorités françaises, ont salué cette libération de Maurice Kamto, qui a quelque peu apporté une décrispation attendue. On a constaté également que Maurice Kamto, son parti, lorsque la libération a été rendue effective, un communiqué auquel on ne pouvait pas du tout s'attendre par le ton, il a publié un communiqué hier dans lequel il dit que on a pris acte de cette libération, mais elle est insuffisante parce que d'un côté, il y a beaucoup de militants de MRC qui continuent de couper en prison, et que par ailleurs, la solution au problème du Cameroun ne peut pas se limiter à la libération de Maurice Kamto de ses coéquipiers, parce que le problème du Nord-Ouest reste un problème latent, et il demande dans son communiqué, il demande que le président de la République du Cameroun aille beaucoup plus loin, n'est-ce pas?
Si je peux ajouter un élément, Xavier, puisque Francis vous parlez du communiqué de presse, oui, Maurice Kamto demande qu'il y ait un dialogue direct avec les leaders de la crise anglophone, et il parle aussi du fait que le passif de l'élection présidentielle n'a pas été soldé. Donc, est-ce que cela veut dire qu'on va encore assister à une mobilisation, puisque lui-même il appelle ses militants et le peuple camerounais à rester mobilisés, et que les modalités de cette mobilisation seront communiquées ultérieurement? Est-ce que cette libération, disons, et quand on écoute ce qu'il dit dans son communiqué, est-ce qu'on peut s'attendre plutôt au pire ou dans les prochaines semaines, où on peut se dire que le contentieux post-électoral est désormais derrière la crise politique?
Maurice Kamto a fait 2 déclarations depuis sa sortie de prison. La première, c'est qu'il a demandé à ses militants de rester mobilisés. Ça, c'est vrai. Mais dans le communiqué que son parti a publié il y a 24 heures, il n'a pas fait allusion à la mobilisation qui pourrait revêtir un caractère de revendication de cette élection.
De remise en cause de la réélection de M. Biya.
Cette remise en cause. Je pense que on voit dans le comportement de Maurice Kamto, de ses militants, de quelques membres de son parti, un certain retour progressif, n'est-ce pas, à la calmie. Parce qu'ils n'ont pas, je pense que les résultats de cette élection ça relève maintenant, après ce qu'on constate, ça relève du passé. Ils vont continuer de contester un certain nombre de choses. Par exemple, le toilettage du code électoral, la remise en question de constitutionnelle et organisationnelle de l'ECAM, la mise en question de la composition du Conseil constitutionnel. Ça, ce sont les chevaux de bataille actuels sur lesquels le MRC semble ne pas s'arrimer en allant aux élections prochaines législatives et municipales. Ça m'étonnerait que Maurice Kamto, avec ses troupes, revienne aujourd'hui encore sur la contestation de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Ça va relever désormais du passé.
bien. On va demander un commentaire à Donklam Abalo, hein, qui a écouté donc notre confrère Xavier Messé. Donklam Abalo, quelle réflexion vous inspire hein, ce processus de décrispation, comme l'on dit en cours au Cameroun?
Bien, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'actualité au Cameroun et personnellement, je pense que dans le débat politique, le principe devrait être la liberté. On ne peut pas priver de liberté des acteurs politiques, notamment de l'opposition, parce que quand vous suivez un peu ce qui se passe en Afrique, souvent, ce sont les acteurs politiques de l'opposition qui sont privés de liberté. Et vous faites bien de dire que c'est un geste politique du pouvoir pour démontrer peut-être qu'il en appelle à la décrispation de l'actualité. Mais je ne suis pas sûr, et ça c'est une lecture de dehors, je ne suis pas sûr que cette situation amène M. Kanto à ne plus revenir sur les élections. Parce que s'il veut être logique et cohérent dans sa lutte politique, il ne peut pas encaisser tout de go l'élection présidentielle au Cameroun, comme ça s'est déroulé, puisque ça a toujours fait partie de ses revendications. Je serais personnellement surpris qu'il ne continue pas à dire qu'il ne reconnaît pas, n'est-ce pas, M. Biya, comme président du Cameroun, dans les conditions dans lesquelles il a été élu. Je dis qu'il continuera toujours de faire cette revendication, tout comme il continuera de mobiliser ses troupes pour les prochaines élections, les élections futures.
Vous souhaitez qu'il continue à réclamer, à remettre en cause les résultats de la présidentielle, ou bien vous êtes en train de lui conseiller d'oublier cet épisode?
Non, je ne peux pas lui conseiller d'oublier cet épisode. C'est un opposant qui est dans un combat politique, qui n'a jamais reconnu, n'est-ce pas, les résultats de ces élections, donc je ne peux pas lui demander ici de reconnaître les résultats. Il est libre d'avoir la posture qu'il veut, il est libre du combat politique qui est le sien, et donc s'il continue à contester les résultats, moi personnellement, je ne serais pas surpris par rapport à ça, mais je n'ai pas de conseil vraiment à lui donner. Ce qui est important à retenir, c'est quoi? C'est que au moins aujourd'hui, il est libéré. On a laissé toutes les poursuites, et c'est ça qu'il faut continuer à faire. Je fais un clin d'œil à mon pays, le Bénin. Je dis, il y a des gens à libérer dans ce pays, il y a des poursuites à laisser tomber dans ce pays. Si on veut la paix, si on veut la tranquillité, eh bien, c'est des gestes forts, des gestes politiques qu'il faut poser. Donc, je salue ce geste. Merci. En même temps, je ne remets pas en cause le combat de M. Kanto.
Merci. Xavier, mais c'est une question encore, hein, à Xavier. Sa décision de libération de prisonniers politiques, est-ce que, selon vous, est-ce qu'il s'agit d'un acte solitaire du président Paul Biya ou de décision concertée? Parce que la question se pose, d'autant que ces décisions ont surpris bon nombre de personnes, y compris au sein même de son parti, le RDPC.
Non, pas très bien, Xavier.
Alors, vous me suivez mieux maintenant?
Voilà. Là, c'est mieux.
Voilà. Donc, je voudrais dire que d'abord, la décision, l'arrestation de Maurice Kamto a été un acte par lequel il semble que le chef de l'État avait été mis devant le fait accompli. Ça, je ne peux pas entrer beaucoup plus dans les détails. Mais il semble qu'elle avait été mis devant le fait accompli. C'est une arrestation qui n'est même pas passée par droit régulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une plainte est déposée, la police ayant fait son travail et la justice ayant mandaté son arrestation. Ça a été décrété lors de la conférence de presse par un ministre de la manière la plus cavalière. Donc cette arrestation.
Le ministre de l'administration territoriale? Monsieur Attangadi, le ministre de l'administration territoriale, Monsieur Attangadi.
Ben oui, c'est lui qui, lors d'une conférence de presse à laquelle je prenais d'ailleurs partie, il a dit vraiment de la manière la plus désinvolte que ceux qui contestent telle ou telle chose pourront répondre aux usages de haut de la rue où ils ont à regretter. On n'a jamais vu un homme politique parler en public de la manière aussi désinvolte. Donc le chef de l'État, pour ne pas désavouer son ministre, on l'avait mis devant un fait accompli. Donc, ça veut dire, jusque-là, on n'avait pas apporté des motifs anticonstitutionnels qui avaient provoqué l'arrestation de Maurice Kamto avec une cohorte de ses camarades. Donc, c'est une situation qui est restée latente. Il fallait que, pour ne pas avoir à désavouer deux ministres en fonction, parce que cette conférence de presse était faite devant deux ministres, pour ne pas désavouer, je pense que le président de la République a attendu le moment le plus opportun pour pouvoir...
Et a endossé, d'après vous, malgré lui, cette décision d'arrestation de Maurice Kamto?
Ben écoutez, il va être solidaire de son gouvernement, mais il ne pouvait pas du coup, hein, n'est-ce pas, contredire un membre du gouvernement qui a pris une décision aussi et aussi grave de conséquences. Mais le résultat, c'est que depuis cette libération, il y a une décrispation totale dans l'ensemble du pays. Mais je voudrais rappeler à ce que Francis disait tout à l'heure, ceux qui ont revendiqué, ceux qui ont perdu une élection, ou tout au moins, ceux qui ont été déclarés officiellement avoir perdu une élection, mais quand ils ont continué à revendiquer une victoire volée ou une victoire perdue, nulle part ils n'ont eu gain de cause. Nous avons pour référence la Côte d'Ivoire, le Gabon, nous avons
Raila
également
Odinga au Kenya, voilà.
voilà, ils n'ont jamais eu gain de cause. Je pense que Maurice Kamto s'est fait énormément de ses expériences pour que revendiquer une élection qui ne l'a pas portée au sommet de l'État, ça ne pourra pas être pour lui, n'est-ce pas, un programme politique pour qu'il continue de combattre. Il a autre chance, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que Maurice Kamto et ses troupes regardent vers autre chose. Ils regardent vers la revendication d'un certain nombre de surtout qui constituent, n'est-ce pas, le système démocratique dans un pays. Ils ont les yeux tournés vers l'élection présidentielle, enfin l'élection législative.
Les échéances à venir. Xavier, très rapidement, je suis désolé de vous interrompre. On n'a plus qu'une seule petite minute sur ce sujet. Et je voulais vous demander, vous affirmez que l'arrestation, le président bien été pris de court par l'arrestation de M. Kamto. Vous affirmez aussi que, oui, c'est, le président Biya a pris cette décision parce qu'il ne souhaitait pas remettre en cause ce que ses ministres avaient déjà décidé. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que, finalement, le fait que le Maurice Kamto, d'après vous, va de renoncer aux contestations des résultats de la présidentielle, est-ce que cela ne peut pas aussi être lié aux déclarations du ministre de la Communication qui a clairement mis en garde Maurice Kamto et l'invitant à ne plus réclamer sa supposée victoire à cette présidentielle.
La déclaration de René Sadi est tout à fait normale parce que, vous savez, dans des négociations, il n'y a pas eu de négociations à proprement parler, mais je pense que Maurice Kamto, pendant qu'il était en incarcération, il a reçu énormément de personnes, il a reçu énormément de conseils. Et c'est quelqu'un de complètement transformé qui est sorti de prison. Pas transformé à cause de la prison, mais transformé parce qu'il a regardé les choses avec un peu de recul et de manière froide. Il a reçu des gens et des amis qui, tant de l'extérieur qu'à l'intérieur, et je pense que cela pourrait avoir un intérêt à modifier son comportement. Par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration de M. René Emmanuel Sadi, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il met les militants de MSP en garde. Si jamais vous redescendez dans la rue pour contester une élection que vous n'avez pas gagnée, et là, vous aurez la sécurité des rêves.
Merci. Sans transition, le dernier sujet, la Gambie, le ministre de la Justice a exprimé la satisfaction de son gouvernement suite à la vente des biens de l'ex-président Yahya Jammeh pour financer la réparation de ses victimes. Aboubakar Tambadou a estimé que c'est la meilleure des méthodes et la plus juste. Le président du centre des victimes de l'ex-dirigeant gambien déchu qualifie de petite victoire cette opération qui a donc permis au gouvernement gambien de verser 600 millions de francs CFA au fonds d'indemnisation. Monsieur Donklam Abalo, comment appréciez-vous cette décision et cette mesure des autorités gambiennes?
D'accord. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire rapidement que ce n'est pas parce qu'on n'est pas sûr de gagner une revendication qu'il ne faut pas la faire. Dans un combat politique, dans une logique et une cohérence politique, même si vous n'êtes pas sûr d'atteindre vos objectifs, même si vous n'êtes pas sûr d'avoir gain de cause, vous devez pouvoir continuer à revendiquer, à dire ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Alors ça, c'est une parenthèse. Que je referme très rapidement pour dire que ce qui se passe en Gambie, pour nous, doit être un signal fort pour tous les chefs d'État africains. Il y en a beaucoup parmi eux qui, une fois au pouvoir, amassent les biens meubles et immeubles, pensant que c'est la fin de toute chose. Après 22 ans au pouvoir, Jammeh est parti dans les conditions que nous connaissons et il a laissé des biens meubles. Si aujourd'hui on décide de vendre ces biens pour indemniser les victimes de sa gouvernance, ce n'est que je suis conduit. Moi, de ma position, je pense que c'est une bonne décision. Maintenant, il faut s'arranger pour que les biens ne soient pas rachetés par derrière et par le clan du président Djamé. Ça aussi, c'est une éventualité. Ça aussi, c'est une possibilité en Afrique.
Ou peut-être ceux aussi de l'actuel président, Adama Barrow. Vous avez des craintes?
Non,
vous dites qu'il faut faire attention à ce que ces biens ne soient pas rachetés par les membres du clan de l'ex-président Djamé. Et je demandais, est-ce que cette crainte est aussi valable pour les membres ou les proches de l'actuel président Adama Barrow?
Absolument, c'est une hypothèse. C'est-à-dire que c'est vrai, l'essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir gagner l'argent pour indemniser les victimes, mais en même temps, il ne faudrait pas que dans la vente ou dans la cession de ces biens, on se retrouve, n'est-ce pas, à faire racheter les biens par des gens qu'on avait dépossédés. Ça aussi, c'est une hypothèse. Et nous sommes en politique, toutes les hypothèses sont plausibles tant qu'on peut les avancer.
Xavier, mais c'est une réflexion générale sur cette affaire, parce qu'il y a un rapport d'enquête qui a été publié, intitulé « Le grand braquage gambien », publié par une ONG dénommée « Projet de signalement du crime organisé de la corruption ». On y apprend que Yahya Djamé et ses proches auraient détourné en 22 ans au moins 975 millions de dollars. Alors, au-delà, je dirais, du délit économique, au-delà du crime économique, est-ce qu'il n'y a pas là, très clairement, une atteinte carrément à l'intégrité d'un pays ?
Non, ben je ne pense pas qu'il y ait atteinte à l'intégrité d'un pays. Ce sont les nouvelles autorités de Gambie qui ont décidé de procéder à ces opérations-là, notamment vendre les biens de l'ancien président et ensuite financer un certain nombre de projets.
Non, je vous parle du volume de détournement de fonds constaté. Hein. Est-ce que voilà.
Ce volume, d'abord, quand vous prenez un pays comme la Gambie qui a 2 250 000 habitants sur une superficie de moins de 12 000 km2.
Et la moitié de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté.
Voilà. Et dont le déficit est énorme. Le président a d'un côté envie de financer le déficit budgétaire de son pays. Et si quelqu'un a pris de l'argent et a confisqué des biens, on lui prête 280 terrain qu'il a pris, mais quand il a une telle fortune, c'est-à-dire des biens qu'il a récupérés sans en justifier l'origine, je pense qu'il est tout à fait normal que les nouvelles autorités locales puissent récupérer ça s'ils ont un programme national à financer pour le bien-être des Gambiens, ou alors pour compléter l'équivalent budgétaire. Mais ce que je peux mettre en doute ici, c'est que connaissant la capacité de ça financer de ce pays, même si c'était en 30 ans, le montant d'argent qu'on attribue à Yahya Djamé d'avoir détourné, il y a de quoi mettre ce énorme montant en deux. Je n'y crois pas du tout. Il a détourné beaucoup d'argent.
Vous pensez que c'est beaucoup plus ou beaucoup moins
dimensionné, c'est vrai. Mais beaucoup moins.
Xavier, peut-être pour terminer, voilà, Djamé, hein, on le disait, notre invité le disait, a régné pendant plus de 20 ans, 22 ans. Il a encore probablement des soutiens qui, c'est vrai, se font discrets. Mais est-ce que la confiscation et suivie de la vente de ses biens ne peut-elle pas constituer peut-être la mesure de trop qui peut provoquer une poussée de colère plus forte de la part de ses partisans et peut-être même compromettre éventuellement la réconciliation nationale?
Mais ça, c'est une probabilité. C'est une probabilité qu'il faut absolument prendre en compte. Il a beaucoup d'amis encore. Ça se ressent même dans l'armée. Il a encore beaucoup de gens qui regrettent son départ et qui sont en mesure de le soutenir. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce bien mal acquis, il faut quand même que l'État puisse en disposer. Mais s'il le fait de manière brutale, je suis certain qu'il aura des conséquences là-dessus. Et puis, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que ce bien peut être racheté par les membres de sa famille, par les proches parents qui lui sont fidèles, les amis qui lui sont fidèles. Mais lorsque vous allez à une vente aux enchères, mais vous ne demandez pas, on ne demande pas l'origine de la personne qui va acheter. Si l'entourage de Yahya Djamé a des moyens pour acheter, c'est bien, tant mieux, mais l'essentiel étant ici que l'État puisse récupérer cet argent et puisse affecter ça à d'autres besoins.
Merci. Il nous reste juste le temps d'écouter les messages recueillis et livrés par Didier Lagrissas Lando sur Internet, sur notre page Facebook. C'est à vous, Didier.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Dialogue politique au Bénin, Marette Fadikpé estime qu'un dialogue sans l'opposition est un monologue entre personnes qui aiment s'écouter parler et qui se gavent à la barbe de la pauvre population. Pour elle, ce dialogue n'a donc rien de constructif. Elie Essou, lui, se demande si on peut parler d'opposition au Bénin avec les divergences d'opinion qui s'observent au sein de cette classe politique en face du pouvoir talon. Didier Afodo demande à notre invité la marge de manœuvre dont dispose l'USL pour participer aux prochaines échéances électorales, étant donné que le parti est considéré comme illégal par la législation en vigueur. Cameroun, Archédic Théodore de N'Djamena affirme que la libération de Maurice Kanto est un geste salutaire qui marque une véritable avancée dans le processus de dialogue national prôné par le président Paul Biya. Pour Sonny Etila, la libération de Maurice Kanto était prévisible. Pour notre internaute de Yaoundé, c'est une stratégie bien ficelée par le gouvernement en place en vue des prochaines élections législatives et municipales. Gambie, Charles Bazema estime que ce qui se passe en Gambie est historique en Afrique et cela va faire réfléchir certains hommes au pouvoir. Merci à MD Choud et Aubin Alamafan qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Merci Didier, la liste
à vous Nando. Aussi.
Il nous reste juste le temps de demander à notre grand témoin une conclusion générale. Donc, Lam Abalo, peut-être, vous pouvez répondre à l'auditeur qui s'interrogeait sur le sort de l'USL face aux prochaines échéances électorales.
Non, de toutes les façons, sur cette question-là, nous considérons que les dés sont pipés puisque le gouvernement a mis tout en œuvre pour contrôler les organes qui organisent les élections Bénin, les organes impliqués également dans le contentieux électoral, la liste électorale, tout ça est entre les mains du gouvernement. Donc aujourd'hui, le plus important n'est pas de participer à des élections. Et lorsque vous voyez les élections à venir, c'est les municipales, c'est les locales. Aucun chef quartier, aucun maire aujourd'hui n'est de l'opposition officiellement. Et donc, nous ne sommes plus en démocratie. C'est pour ça que nous insistons sur la revendication principale qui est la reprise des élections législatives de façon à ce que toutes les composantes politiques soient représentées à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a une Assemblée nationale à 100% appartenant au régime, il n'y a rien à attendre de ça. Et ça, c'est un déni de la démocratie. Pour nous, le diagnostic est très clair. Et l'USL continue ce combat, justement, de la restauration des acquis démocratiques. C'est le plus important combat à l'heure actuelle, monsieur le journaliste.
L'acquis démocratique au Bénin, bien sûr. Merci beaucoup, Donklam Abalo. Vous étiez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Donklam Abalo, porte-parole de l'USL, l'Union sociale libérale, parti d'opposition au Bénin. Merci également à notre confrère Xavier Messé, qui est avec nous au téléphone depuis le Cameroun, directeur de HTV, une chaîne de télévision privée camerounaise. L'émission a été réalisée à Dakar par Alioune Badara Ndiaye, régie technique assurée ici à Paris par Hugo Vallière. Chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique Africa Radio avec Liliane à mes côtés, bien sûr. Elle sera là cette fois, elle n'est plus en vacances.
Oui Francis, c'est exactement cela. À la semaine prochaine, je serai en poste à Dakar.
Au revoir.
Bon week-end à tous, au revoir.